Une actrice relativement connue a dit « Mes enfants sont toute ma vie. Je suis comme n'importe quel parent. Dès que vous donnez naissance à un enfant, il devient votre priorité. Mon existence tourne autour des miens. » Lors du confinement, un patron de restaurant a déclaré ceci à la presse. « C'est 10 ans d'activité, c'est toute ma vie. J'ai démarré à zéro, j'avais rien quand j'ai quitté mon employeur. J'ai travaillé et travaillé pour construire et acheter tout ce que j'ai aujourd'hui. » Sous-entendu que là, lors du confinement, il allait peut-être tout perdre. C'est toute ma vie. Et à propos d'un chanteur, une fan va dire « Kenji, c'est toute ma vie. Je l'écoute en boucle dans ma chambre. Sa guitare et sa voix me touchent énormément et me remontent le moral quand je déprime. » Et puis nous avons cette déclaration dans la Bible « Christ est ma vie et la mort est un gain. » Et c'est l'apôtre Paul qui dit cette phrase. Et voyez que cette déclaration, cette dernière déclaration, se distingue clairement des autres. Si l'apôtre Paul vivait à notre époque, il aurait son hashtag. Hashtag Christ est ma vie. Et je vous propose de lire cet extrait de la lettre aux Philippiens, où Paul fait cette déclaration. Philippiens chapitre 1, des versets 12 à 26. Philippiens chapitre 1, versets 12 à 26. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères et sœurs. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères et sœurs à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité. Mais d'autres annoncent Christ dans un bon esprit. Ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. Quant aux premiers, ils annoncent Christ dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Qu'importe, après tout, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, Christ est annoncé. Et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir, car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut, grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien. Mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie c'est Christ, et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons, à cause de moi, de placer votre fierté en Jésus-Christ. Alors, même si cette lettre a été étudiée dans les groupes de maison cette année, j'aimerais vous rappeler un petit peu le contexte. Paul est en prison, comme il le dit ici. Quelque part, certains disent Rome, d'autres disent Éphèse ou Césarée. Et il écrit à ces chrétiens de Philippe, une ville qui est située en Macédoine, au nord de la Grèce. Il les connaît bien, ces Philippiens, parce que lui-même est le fondateur de l'église de Philippe. Et juste avant notre texte que nous venons de lire, Paul leur dit combien il les aime et qu'il prie pour eux afin qu'ils aillent de progrès en progrès dans leur vie avec Christ. Et cette lettre, il faut la considérer comme une lettre de nouvelles. Une lettre de nouvelles d'un missionnaire à l'Église qui le soutient en prière et financièrement. Et dans le texte d'aujourd'hui, l'apôtre donne justement de ces nouvelles pour rassurer ses destinataires. Malgré sa situation peu confortable, Paul a de quoi se réjouir. L'évangile de Jésus-Christ circule autour de lui et dans la ville où il se trouve. Et c'est dans ce contexte-là qu'il déclare aux Philippiens « Christ est ma vie ». N'est-ce pas en principe le slogan de tout chrétien ? Nous aimons dire que Christ est tout pour nous. D'ailleurs, nous avons chanté que nous sommes prêts à tout lui donner. Mais il faut avouer que la réalité de notre vie semble souvent dire autre chose. Peut-être même que nous ne sommes pas prêts à confesser une phrase si radicale. « Christ est ma vie » ou bien il ne l'est pas. Et tel un chrétien mature, façonné par le Seigneur, tel un grand frère dans la foi, l'apôtre Paul nous sert de modèle ici. L'exemple d'une vie consacrée au Seigneur. L'exemple d'un engagement total pour son Sauveur. Et si ce texte est dans la Bible, c'est que Dieu veut que nous considérions l'exemple de l'apôtre Paul. Dieu nous montre ce qu'est un chrétien engagé, qui vit seulement pour Christ. Dieu nous montre ce qu'est un chrétien engagé, qui vit seulement pour Christ. Et si Christ est notre vie, voici ce que cela implique. D'abord, si Christ est notre vie, nous nous réjouissons qu'il soit annoncé. Nous nous réjouissons qu'il soit annoncé. Nous l'avons dit, Paul est en prison, mais au lieu de se plaindre et de se lamenter, il rassure ses destinataires et il évoque ce qui le réjouit. Christ est annoncé. Et puisque nous avons le texte sous les yeux, verset 12, « Je tiens à ce que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Paul a conscience que son emprisonnement est un sujet d'inquiétude pour les Philippiens, qui sont tellement attachés à l'apôtre Paul. Mais il sait cependant que Dieu a le contrôle de la situation. Il sait que Dieu peut utiliser souverainement sa situation pour produire des effets positifs. Et voyez que littéralement, il est écrit que sa situation contribue au progrès de l'Évangile. Autrement dit, de plus en plus de personnes entendent parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. De plus en plus de personnes entendent dire que Jésus, le Fils de Dieu, est venu parmi les hommes, qu'il est mort sur une croix et qu'ainsi il a payé pour leurs fautes. De plus en plus de personnes entendent dire qu'il est ressuscité et que le pardon des péchés est accordé à toute personne qui met sa confiance en Christ. De plus en plus de personnes entendent l'appel de changer de vie et de suivre Christ, le Sauveur du monde. Inlassablement, l'apôtre a défendu cette cause durant son ministère et jusqu'en prison. Les gardes du pouvoir impérial, les autres prisonniers, ceux qui côtoient Paul, connaissent sa foi. Ils savent la raison pour laquelle il est en prison. Est-ce qu'il a commis un crime ? Non, en aucun cas. Il est là parce qu'il sert Christ. Et Dieu utilise cette situation de détention pour que d'autres entendent parler de l'Évangile. Et on peut noter aussi un autre effet positif, mais qui semble paradoxal. Au lieu de décourager les autres croyants, l'emprisonnement de Paul va motiver la plupart à continuer à annoncer l'Évangile. C'est ce que nous voyons au verset 14. Et nous trouvons chez ces croyants une foi, une audace qui est renouvelée. Ils annoncent sans crainte la parole de Dieu. Ils sont convaincus d'avoir reçu le bon message. Ils sont convaincus d'avoir reçu la vérité. Ils sont convaincus d'avoir suivi la bonne personne, Jésus-Christ. Et Paul se réjouit de cet effort des chrétiens. Même s'il est vrai, certains ne le font pas avec de bonnes motivations. C'est ce que nous voyons au verset 15 et 17. Certains sont jaloux. Peut-être jaloux du ministère de Paul. Ils veulent en faire autant. Ils pensent peut-être même faire mieux. Ils prennent l'annonce de l'Évangile comme une compétition. Et pour quel motif ? Le succès ? L'influence ? Le pouvoir ? Peut-être l'argent ? Mais d'autres, au contraire, le font par amour, solidaire avec l'apôtre injustement emprisonné. Et puis, nous avons ce verset 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Ce qui compte pour l'apôtre Paul, c'est que Christ est annoncé. Il ne s'attarde pas pour juger ceux qui ne le font pas de la bonne façon. Parce que Christ est sa vie, il désire avant tout que le Seigneur soit connu. Et vous voyez, ça me fait penser notamment au zèle que des directeurs de campagne peuvent avoir pour mettre en avant le candidat aux prochaines élections. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le zèle que peuvent avoir les directeurs de campagne. Pensez à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Eh bien, Paul veut que Christ soit reconnu, non pas comme président, mais comme Seigneur. Il sait que seul Jésus peut sauver les hommes en leur accordant la vie éternelle. Et il veut donc que le plus de personnes le sachent. Alors, il est vrai que sa condition de prisonnier ne lui permet pas d'en faire autant que lorsqu'il était dehors. Mais d'autres ont pris la relève. C'est ce que nous voyons dans notre texte. D'autres ont pris la relève et cela signifie que rien n'arrête le plan de Dieu. Rien ne peut freiner les progrès de l'Évangile. Et vous savez pourquoi ? Parce que ce n'est pas une entreprise humaine. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Évidemment, Dieu utilise des hommes et des femmes pour parler de Christ, mais c'est son œuvre avant tout. Une œuvre qu'il maîtrise parfaitement. Et cela doit nous encourager aussi à continuer à annoncer Christ là où le Seigneur nous a placés. Si Christ est notre vie, et tant qu'il est annoncé, nous avons des raisons de nous réjouir ici-bas. Alors quel intérêt portons-nous au progrès de l'Évangile dans le monde ? Quel intérêt portons-nous au progrès de l'Évangile au travail, à l'école prochainement, dans notre voisinage ou encore dans notre quartier ? Quel intérêt portons-nous au progrès de l'Évangile ? Est-ce que parmi nos objectifs de l'année, le plus important est que Christ soit annoncé ? Et j'aimerais vous dire, mes amis, que le plus important que nous ayons à penser pour cette rentrée est d'annoncer Christ, de le faire connaître. Nous avons une bonne nouvelle et nous avons surtout une personne à présenter. Et je pense à l'an dernier, peu avant Pâques, quelque part en Alsace, on pouvait lire de loin, avec des grandes lettres blanches recouvertes de plumes, on pouvait lire de loin « Jésus, Sauveur du monde ». Et l'auteur de cette installation est chrétien et il a voulu transmettre le message suivant à l'occasion de Pâques, un message d'amour, de paix et de réconciliation. Ce sont ses propres mots. Imaginez de loin, vous voyez « Jésus, Sauveur du monde ». Alors, cette installation est restée quelques semaines seulement, mais déjà, ça en disait long. Jésus est venu pour sauver des pécheurs. Et les gens qui nous entourent doivent le savoir. Et cet exemple nous rappelle que dans nos occasions de témoigner, nous ne devons pas oublier de parler de Christ et de ce qu'il a fait pour l'humanité. Il mérite d'être connu. Et c'est à nous d'avoir le courage de le faire connaître. Alors évidemment, pour cela, nous comptons sur l'aide du Saint-Esprit. Et c'était le cas pour les premiers chrétiens. Et c'était le cas pour l'apôtre Paul. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous aide dans cette tâche. Donc, si Christ est notre vie, nous nous réjouissons qu'il soit annoncé. Qu'est-ce qui démontre encore une vie consacrée à Christ ? Eh bien, deuxièmement, si Christ est notre vie, nous voulons qu'il soit glorifié en toutes circonstances. Nous voulons qu'il soit glorifié en toutes circonstances. Paul est dans une situation délicate. Il ne connaît pas l'issue de sa situation. Il semble en attente de son jugement. Va-t-il être libéré de prison ? Ou bien va-t-il être exécuté ? Et malgré l'incertitude, l'apôtre partage aux Philippiens ce qui fait son assurance. Je relis encore la fin du verset 18. « Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Paul exprime ici une réelle confiance dans le Seigneur. Il considère que tout ce qui lui arrive constitue des étapes qui, au bout du compte, aboutiront à son salut. Malgré les épreuves, il garde la joie et il garde l'assurance du salut. En fin de compte, il sera sauvé par celui en qui il a placé sa confiance. Il en a la certitude. Il dit « Je sais ». Il en a la certitude. Et deux éléments lui donnent aussi de l'assurance. D'abord, il peut compter sur les prières des Philippiens qui le soutiennent. Et puis, plus important, il peut compter sur la présence rassurante du Saint-Esprit. Paul ne s'inquiète pas de l'issue du procès qui est devant lui, parce que quel que soit le verdict des hommes, Paul sait qu'il est déjà déclaré juste par Dieu. Parce qu'il a placé sa foi en Jésus-Christ, il n'a pas à craindre le verdict des hommes. Et la présence même de l'Esprit atteste que Paul appartient déjà à son Sauveur. Il le dit aux chrétiens de Rome, dans Romains chapitre 9, chapitre 8, verset 9. « Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si le Saint-Esprit habite en vous, vous pouvez être certain que vous appartenez à Christ et que votre salut est assuré à cause de ce qu'il a accompli pour vous. C'est Christ qui assure votre salut et non pas ce que vous pouvez faire pour lui. Pour autant, cela ne signifie pas qu'en se sachant sauvé, nous pouvons faire n'importe quoi. Paul l'a bien compris, et sa vie tourne autour de Christ. Sa préoccupation, c'est de glorifier Christ. Et glorifier Christ, c'est avant tout faire en sorte que les regards soient tournés vers lui, vers Christ, plutôt que vers nous. C'est vivre de telle sorte que devant les autres, Christ soit honoré. Et encore pour le dire autrement, glorifier Christ, c'est révéler sa grandeur à travers notre petite vie. Et c'est pour cela que nous lisons au verset 20. Car ce que j'attends, ou conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. L'apôtre espère de toutes ses forces témoigner de la bonne façon jusqu'à son dernier souffle. S'il est condamné, sa mort servira de témoignage auprès des autres. Il aura tenu ferme toute sa vie. Il sera allé jusqu'à mourir pour défendre la cause de Christ. Paul est prêt à mourir pour son Sauveur. Ça, c'est un engagement total. Et c'est vrai que dans un contexte de persécution, les chrétiens sont parfois confrontés, encore aujourd'hui, à la réalité de la mort. Mais le martyr ne doit pas être considéré comme une posture héroïque, puisque le but n'est pas que les autres disent « c'est incroyable ce qu'il a fait » en parlant du chrétien, mais plutôt « c'est incroyable ce qu'il a fait » en parlant de Christ, qui est capable de transformer la vie d'hommes et de femmes qui sont prêts à mourir pour lui. On peut penser à cette adolescente que vous connaissez sans doute, Rachel Joy Scott, qui avait 17 ans quand sa vie s'est arrêtée le 20 avril 1999. Elle a été victime d'une fusillade qui a eu lieu dans son lycée, dans le Colorado, aux États-Unis. Il y a eu 12 autres victimes avec elle, dont un professeur. Et Rachel était connue dans son entourage pour être une adolescente avec une foi profonde, passionnée pour le Seigneur. Assurément, on pouvait dire d'elle que Dieu représentait tout pour elle. Et c'est précisément cela que nous retiendrons de cette jeune fille. Après sa mort, le Seigneur a encore utilisé son témoignage, sa vie, pour toucher bien des gens. Rachel avait 17 ans, et il est évident que Christ a été glorifié par sa vie et par sa mort. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous ne nous trouvons pas dans la même situation que Paul ou que Rachel. Mais dès maintenant, que par notre vie, Christ soit glorifié. Vivre pour Christ est en principe ce que nous avons déjà commencé à faire, si nous avons placé notre confiance en lui. Et comme Paul écrit, que nous n'ayons honte de rien. Que nous ne passions pas à côté de cette vie qui consiste à faire tout pour sa gloire. Certains d'entre vous sont dans les études. D'autres travaillent déjà. Peut-être que vous pensez, que vous vous projetez en pensant au genre de vie que vous aimeriez avoir. Eh bien, dans tout cela, cherchez ce qui manifestera la grandeur de Christ dans votre vie. Si un jour on vous complimente parce que vous êtes quelqu'un de studieux, de compétent dans ce que vous faites, répondez humblement que vous utilisez simplement les capacités que le Seigneur vous a confiées par grâce. Autre exemple, lorsque vous parlez de votre week-end, expliquez pourquoi vous aimez tellement passer du temps à l'église avec celles et ceux que Christ a sauvés aussi. En somme, que les gens puissent dire de vous que vous êtes quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur. C'est sûrement ce que les autres pouvaient dire de l'apôtre Paul. Et c'est aussi ce que les autres ont pu dire de Rachel. Nous avons vu jusque-là que si Christ est notre vie, notre joie se trouve dans le fait qu'il est annoncé aux hommes. Et à l'instant, nous venons de voir que si Christ est notre vie, nous voulons qu'il soit glorifié en toutes circonstances. Et permettez-moi d'ajouter une troisième implication. Si Christ est notre vie, nous le servirons jusqu'au bout. Si Christ est notre vie, nous le servirons jusqu'au bout. Une fois de plus, Paul ne connaît pas son avenir, mais il sait où se trouve son avantage. Et nous voyons au verset 23, il est comme dans un dilemme. « Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. » L'apôtre n'a pas peur de la mort parce qu'il sait ce qu'il y a derrière. Et de même pour nous, si nous avons placé notre confiance en Jésus, nous savons effectivement qu'après notre vie terrestre, nous serons dans la présence du Seigneur, plus près de lui que nous ne le sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul exprime ce désir. J'ai le désir de m'en aller, de quitter cette vie. Alors, comprenons bien qu'il ne s'agit pas là d'une pensée suicidaire. Mais l'apôtre Paul nous partage son aspiration, son désir d'être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur. C'est pourquoi mourir est un gain. Paul sait qu'il a tellement plus à gagner en étant avec le Seigneur que loin de lui en restant ici-bas. Considérer la mort comme un gain, c'est finalement aimer Christ plus que la vie. C'est aimer Christ plus que sa propre vie sur terre. Et je dois l'avouer, cette manière de penser me remet personnellement en question. Parce que bien souvent, en réalité, j'aime ma vie plus que Christ. Mais même si être avec Christ est la meilleure option, Paul voit encore des occasions de servir Christ, de porter du fruit. Et c'est ce que nous voyons déjà dès le verset 22. « Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. » Voilà comment l'apôtre envisage le sursis qui lui serait accordé. Si Dieu lui donne d'être libéré de prison, il continuera à suivre son appel. Il continuera à servir pour le royaume de Dieu. Il continuera à servir Christ, son Seigneur et son Sauveur. Et lorsque l'apôtre Paul parle de sa tâche ou de son activité, il fait allusion à son ministère, il fait allusion à son zèle dans l'annonce de l'Évangile. Il fait allusion à son souci pastoral pour les Philippiens. Et parce que justement, il voit le besoin, les besoins des Philippiens, Paul a conscience qu'il peut encore contribuer à leur progrès, qu'il peut encore contribuer à leur joie dans la foi. C'est ce que nous voyons au verset 24 et 25. Et il met en priorité ce qu'il va faire, la joie des autres, avant sa propre joie. Et notez bien encore une fois ce qu'il dit au verset 24. « À cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. » Paul voit tout l'intérêt d'être auprès des Philippiens, de les encourager, de les enseigner encore, de partager des moments forts avec eux. Il ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre, mais il sait ce qu'il ferait du temps qui lui serait accordé. Et nous ? Nous ne savons pas non plus de quoi l'avenir sera fait. Avons-nous songé à ce que nous faisons du temps dont nous disposons ? Si nous appartenons à Christ, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, eh bien c'est à lui que nous dévouons notre temps et notre service. Nous n'avons pas forcément reçu un appel comme celui de l'apôtre Paul, mais par contre, en tant que disciples de Jésus, nous avons été appelés à servir, nous avons été appelés à porter du fruit. Dieu a préparé d'avance pour ses enfants des œuvres à accomplir. Et vous connaissez sans doute ce verset dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Nous avons une place dans l'œuvre de Dieu sur terre, à notre échelle. Et je pense, par exemple, à notre vie d'église. Paul savait que le mieux qu'il puisse faire, c'était d'encourager ses frères et sœurs et de les aider à progresser dans la foi. N'oublions pas que Dieu a sauvé un peuple où les membres sont en relation les uns avec les autres, et non pas des individus éparpillés comme des électrons libres. Pour cette rentrée, quelles sont les œuvres bonnes que tu pourrais commencer à faire? Ça peut commencer par un service dans l'Église. Où est-ce que Christ t'appelle à le servir? Ça peut être d'encourager plus souvent tes frères et sœurs en leur disant que tu pries pour eux. Ça peut être d'être un partenaire dans la mission, en soutenant financièrement un missionnaire. D'ailleurs, la semaine prochaine, un missionnaire sera là pour nous parler de son projet. Mais ce ne sont là que des idées. Plus largement, comment ta vie peut-elle porter du fruit pour l'honneur de Christ? C'est la question que j'aimerais te laisser pour cette rentrée. Alors reprenons la photo du début. Alors moi, il n'y a rien sur cette photo. Mais qu'est-ce qu'il y avait sur votre photo qui représente toute votre vie? Qu'est-ce qui fait toute votre vie? L'apôtre Paul n'a qu'une seule réponse à cette question, Jésus-Christ. Et à travers l'exemple de Paul, Dieu nous montre cet après-midi ce qu'est un chrétien entièrement engagé pour Christ. Et comme Paul, si Christ est notre vie, cela nous conduit à trois implications que j'aimerais récapituler. Ce qui nous réjouit et ce qui nous importe, c'est que Christ soit annoncé. Ensuite, nous voulons avant tout que Christ soit glorifié en toutes circonstances, dans toutes les circonstances de notre vie. Et enfin, nous servirons Christ jusqu'au bout, et notamment en pensant aux autres. Je vous l'accorde, les mots sont forts, et parfois même difficiles à assumer, de dire « Christ est ma vie ». Je pense à l'apôtre Pierre, qui disait être prêt à mourir pour son maître, et qui pourtant l'a renié. Nous avons besoin que le Saint-Esprit œuvre en nous pour que nous puissions rester fidèles à Christ. Nous avons besoin de son aide à lui. Par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Et peut-être que depuis le jour où nous nous sommes convertis, la routine s'est installée. Peut-être que l'influence du monde a peu à peu rempli notre cœur. Et maintenant, en entendant la parole de Dieu, nous nous rendons compte de cela. Nous avons perdu la passion que nous avions autrefois pour Christ. Eh bien, j'aimerais vous dire cet après-midi qu'il n'est pas trop tard pour se repentir, pour renouveler notre engagement total. C'est encore possible. Et pour celles et ceux d'entre nous qui sont épuisés par la vie, pour celles et ceux d'entre nous qui cherchent un sens à leur vie sans le trouver, vous avez ce témoignage. Christ est ma vie. Choisissons la vie avec Christ. Désirons Christ, Jésus-Christ, plus que toute autre chose. Et ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu ranime cette passion en nous. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, et je m'inclus dedans, il nous est difficile de déclarer à la suite de l'apôtre Paul « Christ est ma vie ». Parce que combien cela est en décalage avec ce que nous vivons vraiment. Mais pourtant, Seigneur, tu nous donnes ta parole. Une parole peut-être pour nous réveiller, une parole peut-être pour nous pousser vers l'avant, pour nous rappeler le plus important. Oui, Seigneur, apprends-nous à nous réjouir lorsque Christ est annoncé et que nous puissions aussi y contribuer nous-mêmes, Seigneur. Que nous ayons cette pensée que toute notre vie, que dans toute notre vie, Christ soit glorifié. Que ceux qui nous entourent puissent reconnaître la grandeur de Christ et combien il est important pour nous. Et fais-nous la grâce aussi, tant que nous sommes sur terre, de pouvoir servir Christ jusqu'au bout. Et notamment de le servir dans l'Église, là où sont réunis ceux qui ont été, celles et ceux qui ont été rachetés par ton Fils unique Jésus-Christ. Et merci encore une fois pour la croix, merci pour son sacrifice Parce que c'est ça qui nous motive, réellement à te donner toute notre vie, car nous t'appartenons déjà. Et nous avons tellement besoin que ton esprit nous assiste dans les moments où nous avons besoin d'ouvrir la bouche pour tout simplement annoncer Christ. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur, que tu nous fasses la grâce encore durant cette rentrée et pour les semaines à venir, de pouvoir mettre en priorité celui qui nous a sauvés, celui qui a tout donné pour nous. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.